الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على السلام هيا على الفلاح الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلے جمعے سے انشاءاللہ جلسہ سالانہ یوں کہ شروع ہو رہا ہے
Par la grâce de Dieu,
جلسہ شروع ہونے سے بہت پہلے
vendredi prochain va débuter
جلسہ کا کام شروع ہو جاتا ہے
de la Jamaat du Royaume-Uni.
UK کا جلسہ سالانہ
ایسا جلسہ ہے Et les travaux de la جلسہ débutent bien longtemps avant la جلسہ سالانہ
عارضی انتظامات کر کے چند دنوں کے لیے
Et pour la جلسہ سالانہ du Royaume-Uni, on doit bâtir une ville temporaire pour mettre en place cette infrastructure temporaire pour abriter la Jalsa. Auparavant, au Pakistan, il y avait la Jalsa Salana et là-bas, la cuisine était installée en permanence. Il y avait plusieurs cuisines qui étaient permanentes. Et dans une certaine mesure, les logements aussi étaient permanents. Quand la Jamaat avait à sa disposition son école et son collège, il utilisait ces bâtiments comme logement. Mais lorsque l'État a réquisitionné cette école et ces collèges, eh bien, on a dû bâtir d'autres logements. C'est vrai aussi qu'il y avait un grand nombre d'invités. C'est pour cette raison qu'on devait mettre en place des logements temporaires. On devait installer aussi des tentes pour les accueillir. En sus de cela, les habitants de Rabwa accueillaient un grand nombre d'invités chez eux à la maison. Leur repas venait de la cuisine de la communauté. Et en tout cas, il y avait des installations permanentes à Rabwa pour la Jalsa Salana. Et en sus de ces installations permanentes, les habitants de Rabwa avaient eu une bonne expérience et étaient très expérimentés quant à l'organisation de la Jalsa. Qu'Allah fasse qu'ils puissent retrouver de nouveau cette atmosphère propice à la réforme, cette atmosphère spirituelle et ce dévouement au service de la communauté. À Qadian aussi, il y avait des installations permanentes. Et la seule installation temporaire était la Jalsaga. C'était uniquement la Jalsaga qui devait être installée. Certes, pour faire tourner les cuisines, on employait un nombre important de non-musulmans et de non-ahmadis. Ils venaient pour préparer le repas, pour préparer le pain. Mais les cuisines étaient permanentes là-bas aussi. En Allemagne aussi, il y a ces installations permanentes. Ils ont à leur disposition des salles. On a tout simplement des installations à faire pour préparer le repas. Ils achètent du pain de l'extérieur. On croit que c'est du pain frais, mais selon moi, c'est un pain qui date d'une semaine. Si tel n'est pas le cas, eh bien certainement, je vais recevoir le message jusqu'à ce soir pour m'informer si ce pain est frais ou pas. Et il en est de même pour la Jalsa des autres pays, mais la Jalsa du Royaume-Uni, qui a maintenant un aspect international en raison de l'installation du califat ici au Royaume-Uni, eh bien, pour cette Jalsa, jusqu'à l'année dernière, on devait tout installer de manière temporaire. Toute l'installation de cette Jalsa était temporaire. Auparavant, il y avait la Jalsa à Islamabad. Et là-bas, il y avait des cuisines permanentes pour préparer le repas. Et jusqu'à un certain point, on avait des machines pour préparer le pain. Et on arrivait à combler nos besoins grâce à cela. Mais depuis qu'on a organisé la Jalsa Salana à Hadikatul Mahdi, depuis que la Jalsa a débuté là-bas sur ce site, depuis 2 ou 3 années, on préparait le repas dans une cuisine temporaire à Hadikatul Mahdi. Parce qu'on avait ressenti qu'il y avait des difficultés pour préparer le pain à Islamabad. Le pain était préparé à Islamabad et on achetait le reste à l'extérieur. Mais c'est pour cette raison qu'il y avait nombre de difficultés. Et nous avons contacté la mairie et nous avons essayé d'avoir cette permission d'avoir une cuisine permanente à Hadikatul Mahdi. Pour avoir une cuisine temporaire, il faut installer des tentes et cela crée de grandes difficultés et c'est quelque chose qui peut être dangereux aussi. En tout cas, cette année-ci, la mairie nous a donné la permission de bâtir une cuisine permanente. Il y avait une grange qu'on utilisait auparavant et on a transformé une de ces granges en cuisine et on l'a transformée en une cuisine permanente. Et Inch'Allah, selon nos besoins, nous allons préparer le repas dans ces cuisines. Mais il y avait quand même cette question de la préparation du pain. J'ai attiré l'attention des organisateurs et l'Amir Saheb et les autres pensaient qu'ils allaient acheter le pain à l'extérieur ou qu'ils allaient faire préparer le pain à Islamabad. Je leur ai demandé d'installer de nouvelles machines pour préparer le pain, mais je pense qu'ils avaient des appréhensions en raison des dépenses. Et lorsque je lui ai dit que le centre va vous faire un emprunt, ils ont eu du courage et ils ont fait cette dépense. Par la grâce de Dieu, on a acheté une machine à préparer le pain du Liban et un frère dévoué du Pakistan, un Ahmadi, est parti au Liban pour acheter cette machine et l'a installée ici. Il est en train de donner son temps pour installer cette machine ici. Il a eu l'expérience à Rabwah et à Kardian où il a installé ces machines et il a accompli un très bon travail ici. Ainsi donc, à Hadikatul Mahdi, on a des cuisines permanentes par la grâce de Dieu. On peut ici préparer le pain et on peut aussi préparer le repas. Pour cela, nous allons devoir remercier la mairie que la récompense toutes ces personnes qui nous ont donné cette permission. Mais quand même, cette Jalsa a cette distinction par rapport aux autres Jalsa. L'installation de toute cette Jalsa est temporaire. Pour s'occuper de 30 000 personnes, on doit faire des installations temporaires. Mais quand il commence à pleuvoir, il y a des difficultés concernant les logements et concernant les passages. On arrive à résoudre cette question des passages en installant des voies, mais on doit installer des tentes et des petits chapiteaux pour les logements et aussi pour servir le repas. Et il y a d'autres difficultés. Ces difficultés sont toujours là. En tout cas, un temps viendra, Inch'Allah, lorsqu'on va résoudre ces difficultés, et il se peut très bien que cette ville temporaire se transforme en une ville permanente de la Jamaat Ahmadiyya. Comme je l'ai dit auparavant, il y a cette installation temporaire. On doit installer toute cette ville. Et dans une grande mesure, ce sont des volontaires qui viennent pour installer cette ville temporaire. Il y a des Ansar en bonne santé qui viennent nous aider. Vendredi dernier, par hasard, je suis passé par Hadikatul Mahdi et là-bas, j'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient sur la machine à préparer le pain. Il y avait des gens qui travaillaient dessus, il y avait des jeunes, des enfants et des personnes âgées qui étaient là-bas, qui étaient en train de travailler. Et ils faisaient de leur mieux pour tout installer, pour la Jalsa Salana. Je dois aussi ajouter ici que ce ne sont pas des employés d'une compagnie qui sont venus pour installer cette machine. Toute cette tâche a été accomplie par nos volontaires, par nos ingénieurs, par nos techniciens et par les autres volontaires. Qu'Allah récompense toutes ces personnes. Il est aussi très important d'être à la hauteur de la norme d'ici. On n'est pas au Pakistan et en Inde où l'on peut agir comme bon il nous semble, où il n'y a pas des vérifications, où l'on peut laisser des fils pendre ici et là, et on peut oublier certains principes. Ici, à chaque pas, il y a des vérifications. Les préposés de l'État viennent, donnent leur permission, et c'est là que l'on peut aller de l'avant. Par la grâce de Dieu, la cuisine qu'on a installée ainsi que ces machines qu'on a installées pour préparer le pain est en accord aux normes d'ici. Et ils nous ont donné leur permission pour cela. Ce que je voulais dire donc était que on doit faire davantage d'efforts ici en raison de ces installations temporaires. Et par la grâce de Dieu, les bénévoles Ahmadi travaillent avec grand dévouement. Ils sont animés de cette ardeur, de ces sentiments qu'ils doivent servir la communauté. Et c'est là une distinction des Ahmadis. Les Ahmadis sont toujours prêts à tout sacrifice. Il y a l'association des ingénieurs qui est en train de travailler. Il y a l'association des médecins qui est en train de travailler. Il y a d'autres départements où il y a des gens qui sont en train de donner leur temps pour travailler. En sus des travaux de la Jalsa, ils sont en train de travailler tout au long de l'année. Ainsi, c'est là une distinction de la Jamaat Ahmadiyya où les volontaires sont en train de travailler pour sa cause. En raison de l'entraînement qu'ils ont reçu pendant l'année, les Ahmadis sont toujours là pour servir les invités. Et c'est là une distinction des Ahmadis. Les enfants, les jeunes, les vieux, les hommes et les femmes, tous sont là et sont animés de cette ardeur pour servir pendant la Jalsa. Et ils assument leur responsabilité au sein de la Jalsa. Ils le font avec ardeur. Ils doivent en être ainsi parce que les invités de la Jalsa sont les invités du Messie premier des Salam. Cette hospitalité est une distinction, c'est une excellence morale et c'est aussi une partie de la foi. Quelle était la norme de l'hospitalité du Messie premier alayhi salam? Nous devons connaître cela afin que notre norme soit meilleure. Un jour, le Messie premier alayhi salam n'était pas en bonne santé, il était en train de se reposer. Un invité est venu. Il a reçu ce message. Le Messie premier alayhi salam est sorti de sa maison. Il a dit que je me suis dit que l'invité a un droit. Et il est venu en passant par mille et une souffrances. C'est pour cette raison que je suis sorti de ma maison pour m'acquitter de mon devoir. Aujourd'hui aussi, telle est la norme que nous devons atteindre par rapport aux invités du Messie premier alayhi salam. Nous devons maintenir cette même norme. Aujourd'hui, on nous offre cette occasion d'accueillir des invités. Et ce ne sont pas de simples invités. Ce sont des invités qui viennent pour un objectif spirituel. Ils ont entrepris ce voyage afin de participer de Rajalsa pour écouter les paroles de Dieu et de son prophète pendant 3 jours. Ils viennent ici afin qu'ils puissent faire leur réforme spirituelle et religieuse. Ces invités sont en train de venir afin qu'ils puissent établir cette atmosphère de fraternité et d'amour. Il y a nombre d'invités qui passent par de grandes difficultés. Il y a certains de ces invités qui vivent très à l'aise chez eux. Et ces invités viennent ici. Et ici, il n'y a pas ces facilités. Et ici, ils doivent se mettre en difficulté pendant ces jours, mais ils acceptent cela. Il y a aussi d'autres invités qui sont plus pauvres et qui se mettent en difficulté, qui viennent de très loin, afin tout simplement de profiter des bénédictions de la Jalsa. Ces personnes répondent à l'appel du Messie premier, alayhi salam. Ils viennent tout simplement pour rencontrer le calife, pour l'écouter. Certes, aujourd'hui, il y a la MTA, et la MTA a rapproché le monde de la Jamaat Ahmadiyya. Mais quand même, l'atmosphère de la Jalsa est une atmosphère particulière. Ainsi, nous ne devons pas croire qu'aujourd'hui, les gens ne passent pas par des difficultés. Ces invités ne souffrent pas. Il y a certains qui sont âgés et il y a certains qui sont malades, mais en dépit de cela, acceptent d'endurer ces souffrances durant ces voyages. Comme je l'ai dit, certains ont abandonné le confort de leur maison et viennent uniquement pour cette cause spirituelle et donc d'un détente et se contentent d'un repas très simple. Nous avons des devoirs envers ces invités et par la grâce de Dieu, la majorité de ces invités viennent uniquement pour la Jalsa. Aujourd'hui, ces voyages coûtent très cher, mais en dépit de cela, ils font ces dépenses et ne s'en soucient pas. Ainsi, il nous incombe à nous, c'est notre devoir à nous, que de respecter, que d'honorer ces invités. Ce sont des invités qui méritent grand honneur. Leur objectif, c'est tout simplement de chercher le plaisir d'Allah et de son prophète. À une autre occasion, le Messie premier des Salam a prodigué des conseils concernant les invités. Il a dit qu'il y a beaucoup d'invités qui sont venus et certains, vous allez les reconnaître et vous n'allez pas reconnaître d'autres. C'est pour cette raison que vous devez honorer tous ces invités. Il a dit que j'ai cet espoir en vous, que vous allez accorder tout confort à ces invités et que vous allez servir tous ces invités. Ainsi donc, ce sont les invités du Messie premier, les salam. Ils sont venus pour un objectif spirituel. Leur intention, c'est de chercher le plaisir de Dieu. Dans ce cas, nous devons, avec vigilance, être de ceux qui respectent les espoirs et les attentes du Messie premier des salam, et nous devons toujours servir tout invité. Nous devons toujours nous dire que les invités ont un droit. Là où nous travaillons, nous devons faire de notre mieux pour nous acquitter de nos devoirs. C'est là la tâche de tout bénévole, de tout volontaire, afin que nous puissions être à la hauteur des attentes du Messie premier, l'Islam. Afin que nous puissions dire que, ô Messie de Dieu, ô amoureux parfait, serviteur parfait du prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes de ceux qui mettent en pratique tous tes conseils. Nous le faisons aujourd'hui aussi. Voilà l'attente que l'on peut avoir concernant un Ahmadi. En dépit de ce voyage de plus d'un siècle, nous ne sommes pas négligents concernant vos attentes au Messie de Dieu. Aujourd'hui aussi, nos enfants, nos jeunes, nos vieux, nos femmes, nos enfants sont en train de faire de leur mieux pour accomplir leurs devoirs. Et Inch'Allah, ils vont continuer à le faire. Et certainement, nous devons avoir en tête ces sentiments, ces pensées du Messie premier l'Islam. Et nous devons toujours faire des efforts en ayant en tête cela. Le Messie premier l'Islam a déclaré que « Moi, je désire point que mes invités souffrent et je prodigue tout le temps ces conseils, c'est-à-dire que l'on doit accorder tout confort à nos invités. » Il a déclaré que le cœur de l'invité est aussi fragile que le cristal et peut se briser aux moindres secousses. C'est un conseil très important. On ne doit pas se contenter de faire des déclarations verbales. Cela doit être notre exemple pratique. Maintenant, il y a des jalsas partout dans le monde. Il y a des invités qui viennent pour ce jalsa. Mais il y a des gens qui viennent de différents pays, des gens appartenant à différents peuples qui viennent particulièrement pour cette jalsa. La norme de chaque peuple et de chaque couche de la société est différente. Le seuil de patience de tout un chacun est différent. La manière de s'exprimer et les émotions de tout un chacun sont différentes. Leurs attentes à notre sujet sont différentes, leurs priorités sont différentes. C'est pour cette raison qu'il faut faire preuve de sagesse à l'égard de tout un chacun. Et pour cela, nous devons avoir en tête ce conseil empli de sagesse du Messie premier alayhi salam. Si on a ce conseil en tête, il n'y aura pas de difficulté. Il a déclaré que le cœur de l'invité est aussi fragile que le cristal et peut se briser à la moindre secousse. Si tout bénévole a en tête ce conseil, eh bien, il n'y aura pas ces différends et il n'y aura pas ces petits différends qu'on a ici et là. Il n'y aura pas de doléances, sauf dans le cas de celui dont l'objectif est de fomenter des troubles. En tout cas, dans ces cas, il faut prendre des mesures sévères. L'année dernière, il y a eu un incident lors d'une réception pour les femmes. Et il y avait une dame qui était venue de très loin, qui était en colère pour cette raison. Qu'un bénévole soit fautif ou pas, en tout cas, nous devons accepter cela et c'est là qu'il y aura la réforme. Il faut accepter cela au lieu de présenter des excuses. Cette année-ci, on a pris de grandes précautions pour les invités du département du Tabshir. Il est important de prendre des précautions pour les invités hommes et femmes afin qu'aucun d'entre eux ne souffre parce que ce sont des invités internationaux. Mais comme je l'ai dit, tous les invités sont des invités. En tout cas, j'ai apporté des changements dans ce département. Il y a eu des changements administratifs. J'ai changé les responsables. Et j'ai placé là-bas des Wakfenau à mes femmes. Et par la grâce de Dieu, et c'est là une autre faveur divine, qu'il y a de nombreux Wakfenau et Wakfatenau qui sont arrivés à maturité, qui peuvent accomplir ces tâches. Il y a certains qui sont en train de travailler de manière temporaire, d'autres qui sont en train de travailler en permanence pour la communauté. Et j'ai l'espoir qu'Inch'Allah, la norme sera meilleure cette année-ci. Mais souvenez-vous de ce point, c'est qu'en changeant de personnalité, en changeant de personne, il n'y aura pas d'amélioration, mais c'est en implorant l'aide de Dieu, c'est en demandant la grâce de Dieu qu'il y aura ces changements et nous devons demander à Dieu l'occasion d'accomplir notre tâche de la meilleure façon possible selon le plaisir de Dieu et nous devons demander à Dieu cette opportunité. Et nous devons prier pour qu'il n'y ait pas de telles situations où il y ait des malentendus. À propos de l'hospitalité, je dois aussi présenter une autre explication. Il y a les Ahmadis du Royaume-Uni. Il y a les Ahmadis qui habitent à Londres en particulier, qui doivent comprendre ce point essentiel. Il y a des invités qui sont venus de l'extérieur. Et ces invités qui viennent de l'extérieur sont les invités des Ahmadis du Royaume-Uni. Il y a environ 3000 invités qui viennent de l'extérieur. C'est pour cette raison que les Ahmadis d'ici, du Royaume-Uni, qu'ils aient une responsabilité ou pas, qu'ils aient une tâche à accomplir pour la Jalsa ou pas, ils doivent comprendre que ces invités qui sont venus de l'extérieur sont leurs invités. Il y a aussi des invités du Royaume-Uni. Et ceux qui ne travaillent pas pour la Jalsa sont des invités pour la Jalsa. Et lorsque il y a des contacts avec les invités de l'extérieur, sachez que tout Ahmadi du Royaume-Uni devient l'hôte de cet invité qui est venu de l'extérieur, et celui qui est venu de l'extérieur est l'invité. Si en des situations particulières, on doit faire un choix entre l'invité qui est venu de l'extérieur et l'invité qui habite ici au Royaume-Uni, s'il est question de faire un choix entre ces deux invités, eh bien, l'on va devoir préférer l'invité venu de l'extérieur. Et l'invité d'ici, du Royaume-Uni, doit se sacrifier pour cet invité venu de l'extérieur. Ainsi, souvenez-vous de ce point, qu'en certaines situations, en dépit du fait que vous êtes un invité, vous devez aussi être un hôte. Cette responsabilité n'incombe pas uniquement aux bénévoles. Ainsi, il faut qu'il y ait cette ouverture d'esprit. Ayez cette ouverture d'esprit et soyez de ceux qui sont prêts à se sacrifier pour les autres. Lorsque vous allez agir en ce sens, c'est là que vous allez donner naissance à cette belle société. Lorsque nous lisons certains hadiths, nous nous disons que, au lieu d'être des invités, il vaut mieux d'être des hôtes. Selon un hadith, l'hospitalité est une distinction des croyants. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré que celui qui croit en Dieu et en son prophète doit honorer ses invités. En d'autres termes, cela signifie que ne pas honorer ses invités, ne pas respecter ses invités, est un signe que sa foi en Dieu et au dernier jour est faible. Le Messie premier, l'Islam, a attiré notre attention à ce sujet. Il a attiré notre attention concernant l'hospitalité à plusieurs reprises. Il a fait suite aux directives de Dieu et aux directives du Saint-Coran. Il l'a fait afin que nous puissions renforcer notre foi. Et selon un autre hadith, le Saint-Prophète Mohammed lui a déclaré que c'est une grande vertu que de se présenter à son frère le visage souriant. Durant ces 3 jours de la Jalsa, vous devez accomplir des bonnes œuvres. Et en sus de cela, vous devez vous présenter à votre frère le visage souriant. C'est là une grande vertu. Il y aura différentes occasions qui vont être. Et les invités et les hôtes auront l'occasion d'agir en ce sens. Je m'adresse aux bénévoles et je leur dis qu'ils doivent avoir des bonnes relations entre eux, entre bénévoles, dans leur conversation. Des fois, en raison de la fatigue, l'on peut s'irriter, mais même en ces situations, il faut traiter l'autre avec politesse. Et les officiers doivent traiter leurs subalternes avec politesse. Auparavant, certains bénévoles sont passés par des situations en raison de certains espaces qui ont été réservés, en raison de certains bureaux qui ont été réservés, ou des nourritures qui ont été réservées aux officiers. Et si un simple bénévole prenait de l'eau là-bas, les autres se fâchaient. Il ne doit pas en être ainsi. Ces pratiques n'ont pas lieu d'exister parmi nous. En tout cas, comme je l'ai dit, lorsqu'on est en train de travailler pour la Jalsa, il peut y avoir des incidents, il y a des hauts et des bas. Cela peut se passer lorsqu'on est en train de servir, mais que l'on se souvienne que nous devons toujours faire preuve de politesse. Certes, on doit traiter avec politesse les invités, mais si on est poli les uns à l'égard des autres, lorsqu'on est en train de travailler, eh bien, cela aura de l'effet sur les invités aussi. Et l'atmosphère sera encore plus agréable. Et cela aura de l'effet sur les invités non musulmans. Et vous allez progresser dans vos qualités, vous allez progresser dans vos excellences, vous aurez le plaisir de Dieu. On doit se souvenir de ces points, à savoir que tout bénévole, tout volontaire n'est pas en train d'accorder quelque faveur à l'invité, mais comme l'a déclaré le Messie promis à l'Islam, comme je l'ai dit auparavant, et c'est un fait que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait évoqué auparavant, à savoir c'est le droit de l'invité. Et Dieu nous demandera des comptes concernant nos devoirs. Que dit-il à ce sujet? Il a déclaré وَعَاتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ وَلَا تُبَذِرْ تَبْذِيرًا. Et accorde les droits aux proches et aux indigents et aux voyageurs et évite toute dépense futile. Ici, on a évoqué les droits de trois catégories de personnes. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, je vais parler à propos des voyageurs. Il y a tout type de voyageurs, mais quant à ces voyageurs qui entreprennent leur voyage pour la cause de Dieu, eh bien, ils sont les voyageurs les plus chanceux. Selon un hadith, il est dit que dans ces réunions où l'on évoque Allah et son prophète, toute personne qui est présente pour ces réunions, eh bien, les anges prient pour ces personnes. Ces anges demandent la paix pour ces personnes. Par la grâce de Dieu, nos jalsa sont de telles réunions. Et certainement, ceux qui viennent participer dans ces réunions, ceux qui entreprennent des voyages pour venir pour ces réunions, sont des personnes d'un grand statut. Ces personnes viennent avec cette intention et ces personnes reçoivent les prières des anges. Sancheuses sont ces personnes qui sont là pour servir de tels voyageurs. Et Dieu a établi leurs droits. Certainement, en s'acquittant de ces devoirs, on aura le plaisir de Dieu. Et quant à celui qui a pu avoir le plaisir de Dieu, il n'y a pas de personne plus chanceuse qu'elle. Si l'on médite à ce sujet, eh bien, ce sera quelque chose de très grandiose. Après avoir accompli une bonne œuvre, il y a une autre porte qui s'ouvre pour nous pour accomplir d'autres bonnes œuvres. Comme je l'ai dit au tout début, que l'on doit comprendre l'esprit derrière ces services que l'on doit rendre. On doit comprendre les sentiments derrière cela. Certes, les gens travaillent en ce sens, ont ces sentiments, mais on doit affiner davantage ces qualités. On ne doit pas se contenter de servir au cours de la Jalsa parce que la Jamaat nous demande de servir, parce que la Jamaat nous demande de venir pour servir. On ne doit pas venir tout simplement parce que le Sadr de la Khuddam al-Ahmadiyya nous a demandé de venir travailler ou tout simplement parce que le Sadr de la Lajna nous a demandé de venir et de travailler. On ne doit pas venir pour cet objectif. L'objectif, c'est d'avoir le plaisir de Dieu. Les compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ont tout fait pour servir leurs invités afin d'avoir le plaisir de Dieu et de son prophète. Je vais citer un exemple. C'est un récit que nous avons souvent entendu, mais à chaque fois, il nous donne un grand plaisir de l'écouter. Et ce récit nous donne de grandes leçons. Hadrat Abu Huraira raconte, un voyageur vint voir le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète envoya un message à ses épouses leur demandant d'envoyer un repas pour son invité. Et on lui répondit qu'il n'y avait que de l'eau à la maison. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, demanda à ses compagnons: qui va s'occuper du repas de cet invité? Un Ansari répondit: je vais m'occuper de lui. Il est parti chez lui et demanda à sa femme de préparer un repas pour l'invité du saint prophète, paix soit sur lui. L'épouse répondit que le repas que nous avons va suffire uniquement aux enfants. L'Ansari a déclaré: prépare le dîner, allume la lampe, et lorsque ce sera l'heure de nourrir les enfants, eh bien, couche les enfants sans les donner de quoi à manger. La femme a préparé le repas, a allumé la lampe, a fait coucher ses enfants sans les donner de quoi à manger. En feignant de régler la lampe, elle a éteint la lampe. Tous deux étaient assis avec l'invité en feignant de manger. Et tous deux sont restés affamés la nuit. Le matin, lorsque l'Ansari s'est présenté au Saint-Prophète, celui-ci a ri et a déclaré que l'action que tu as accomplie la nuit a fait sourire à Dieu. Votre action a plu à Dieu. Et ce verset fut révélé à cette occasion. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Il est dit que ces croyants donnent préférence aux autres sur eux-mêmes, bien qu'ils soient eux-mêmes dans l'indigence. Et quiconque est débarrassé de la convoitise de sa propre âme, ce sont ceux-là qui prospéreront. Voyez donc ce grand sacrifice. Ils ont couché leurs enfants sans leur donnant à manger afin de nourrir leurs invités. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, personne ne passera par de telles situations. En particulier, pour les invités de la Jamaat, par la grâce de Dieu, on ne va pas passer par de telles situations. Cet invité pour lequel les membres de cette famille ont fait des sacrifices, cet invité était l'invité de la Jamaat. Cet invité était venu pour des objectifs spirituels. Cet invité était venu pour se présenter au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. En lisant cet exemple, ils nous ont enseigné l'importance de l'hospitalité. C'était l'invité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il avait un très grand statut. Et aujourd'hui, les invités du serviteur parfait du saint prophète, ces invités ont aussi une très grande importance. Ainsi, aujourd'hui, tout invité doit avoir en tête l'importance de ses invités. Apparemment, ils ont commis une injustice. Leurs enfants se sont endormis, infamés. Mais ils ont laissé un très grand exemple de l'hospitalité et du sacrifice. Toute la famille a participé dans ce sacrifice. Certains l'ont fait de gaieté de cœur, d'autres l'ont fait par contrainte. Certainement, Dieu a béni ses enfants. Tout comme on le comprend à la lumière de ce verset. Allah a déclaré que de telles personnes sont des mouflihounes. Qui sont ceux qui auront le salut, le succès? Voyons de plus près cela. Le mouflir, celui qui a remporté le succès, celui qui progresse, celui qui remporte succès après succès, celui qui atteint l'objectif de ses désirs qui sont purs et qui s'en réjouit, celui qui reçoit ce qui est bien, celui qui progresse de manière permanente. Et celui qui vit dans cet état, celui qui vit dans le confort, et celui qui jouit de la protection. Ainsi, en sacrifiant un repas, en sacrifiant ces repas pour un invité, ils ont mérité le plaisir de Dieu et ont fait de grands progrès et de grands bons. Et celui qui a pu avoir le plaisir de Dieu, a-t-il besoin d'autre chose? Souvenez-vous de ce point. Sachez que c'est là le statut de ceux qui servent leurs invités. C'est le statut que nous devons atteindre en servant nos invités. C'est la norme que nous devons atteindre. Et c'est grâce à cela que nous allons nous rapprocher de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Ainsi, nous devons nous souvenir de ce point. Dieu nous donne l'occasion de servir les invités du Messie promis, alayhi salam. Et Dieu désire que nous soyons parmi les Muflihin. Il est en train de nous ouvrir cette voie. Qu'Allah fasse que tous les bénévoles, tous les volontaires puissent profiter de ces bénédictions. Et qu'Allah facilite aussi l'organisation de la Jalsa Salana. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire en absence d'un frère qui est tombé en martyr. C'est la prière funéraire de Mokaram Zahour Ahmad Saheb Kiali. Il a été assassiné le 21 août dernier à Karachi et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Zahour Saheb était accompagné d'un de ses amis. Ils étaient sortis à 11h15 le 21 août dernier. Il avait envoyé sa voiture pour la faire réparer. La voiture était à quelque distance de sa maison et il est sorti pour aller voir la voiture. Son voisin Nurul Haq, qui est un non-Ahmadi, l'a accompagné et ils étaient partis à trois pour voir la voiture. La voiture se trouvait à quelque distance de sa maison. Lorsqu'ils sont retournés après avoir vérifié la voiture, il y a deux assaillants qui sont venus à moto. L'un d'entre eux est descendu de sa moto et a tiré sur Zahour Saheb. Anwarul Haq, le voisin de M. Zahour, a frappé un des assaillants et l'autre assaillant a tiré sur Nurul Haq et il a pris la fuite. La fille de Zahour Saheb a entendu les coups de feu. Elle a regardé par la fenêtre et elle a vu les deux assaillants qui prenaient la fuite. Elle prenait son thé et elle a envoyé sa tasse sur les assaillants et ils ont commencé à tirer sur elle. La fenêtre a reçu plusieurs balles, mais la fille était saine et sauve. Zahour Saheb est tombé à martyr. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Il avait 47 ans au moment de son martyr et son voisin Nurul Haq lui aussi est tombé en martyr. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde. Ce fut Youssouf Kiani, l'oncle du martyr qui avait embrassé l'Ahmadiyya en 1936. Un de ses oncles qui avait embrassé l'Ahmadiyya était Mokaram Mohamed Saïd Kiani Saheb. Tous deux étaient des érudits et ils ont embrassé l'Ahmadiyya après avoir fait des recherches. Par la suite, le père du martyr ainsi que sa mère et trois de ses oncles ont embrassé l'Ahmadiyya. Ils étaient de la région de Muzaffarabad, au Cachemire. Le martyr est né en 1966 et en 1976, il s'était établi à Karachi. Il a complété ses études et sa maîtrise et il a commencé à travailler dans le département des finances. Et jusqu'au moment de son martyr, il travaillait comme un clerc dans le département anti-contrebande de la douane. Zahour Saheb coopérait avec sa Jamaat et sa Majlis. C'était une personne très simple. Il était parmi les premiers dans les sacrifices financiers. Une de ses qualités était qu'il était très hospitable. Et il ne retournait jamais ses invités sans les avoir nourris. Il honorait tous les responsables et personne n'a de critique à émettre à son encontre. Le martyr était moussi par la grâce de Dieu. Il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya et grâce à lui, une personne a embrassé l'Ahmadiyya en 2009. Après son martyr à l'hôpital et pour ses prières funéraires, il y a un grand nombre de ses collègues qui étaient venus. Et tous ont loué les grandes qualités du martyr. Un de ses collègues, qui était tout près de sa dépouille, a pleuré à chaudes larmes. Il a déclaré que le martyr était une personne très simple, qui possédait de grandes qualités. Lorsque nous étions en colère, dit-il, il nous encourageait à être patients. Ses officiers ont dit que Zahour Ahmad Kiani était un soldat très brave. En très peu de temps, il nous avait conquis le cœur. Et aujourd'hui, nous avons perdu un grand compagnon. Son beau-père, Bachir Kiali, a déclaré que le martyr aidait tout le monde de la famille. Il était dans une meilleure situation financière et il aidait tous les membres de la famille lorsqu'on était en difficulté. Et en sus de la famille, il aidait aussi les indigents qui frappaient à sa porte. Il avait une très bonne relation avec ses enfants. Il subvenait aux besoins de sa famille et de ses enfants. Il faisait de son mieux pour les études de ses enfants. Son épouse a déclaré que Dieu lui avait donné un très bon cœur. Et c'est pour cette raison que peut-être qu'il est tombé en martyr. C'est pour cette raison que Dieu lui a donné ce très bon cœur. Il n'a jamais réprimandé ses enfants. Sa femme déclare que « Mon mari m'a demandé de nettoyer mes chaussures et il est descendu. Et après l'attaque, moi et mes enfants nous sommes sortis pour le voir. En le voyant, nous avons constaté qu'il était souriant. Il était blessé, mais il était souriant et il a confié sa vie à son Créateur. » Jamais il n'a réprimandé ses enfants, mais quand ses enfants ne regardaient pas le sermon du calife, il était en colère. Il demandait à ses enfants de suivre le sermon avec régularité. Il avait un très grand amour pour ses filles. Il a laissé derrière lui son épouse, Tahira Zahur Kiani Sahiba, 3 fils et 4 filles. Imran Kiani, qui a 20 ans, Kamran Kiani, qui a 14 ans, Sarsazaz, qui a 3 ans, et il a laissé sa fille Nour Saba, qui a 16 ans, Nurulain, qui a 14 ans, Atiatul Mujib, qui a 7 ans, Faika, qui a 5 ans. Qu'Allah exalte le statut du martyr, qu'Allah accorde sa protection à ses enfants, et qu'Allah accorde sa protection à son épouse.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صلِّ